devait pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Le 11 juin 2025, l'Union syndicale solidaire et le Réseau syndical international de solidarité et de lutte accueillaient dans leur local parisien Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina. CTAT. Il fut question de la situation sociale en Argentine sous la présidence de Milei et comment le mouvement syndical argentin s'organise et agit. L'Union syndicale solidaire a pris la décision politique lors de la victoire de Milei. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos camarades en Argentine? Est-ce qu'on va leur envoyer une lettre de condoléances? Et on s'est dit que peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. On a pris la décision d'inviter le syndicat du métro de Buenos Aires, avec qui on tisse des relations syndicales depuis à peu près 12 ans. Et il nous a semblé que la meilleure façon de comprendre ce qui se passait en Argentine, la question de la montée de l'extrême droite, comment Milei était arrivé au pouvoir, c'était qu'un camarade nous l'explique. Beto est là déjà depuis 2 semaines. Il a pu intervenir dans plusieurs villes. Les réunions publiques ont été organisées par les solidaires locaux. Donc on est allé à Nantes, à Laval, au plateau des Glières. Il y aura Lyon également. Demain, c'est à l'UL de Malakoff.
Merci
pour l'invitation. C'est toujours intéressant. Quand on intervient comme ça... En fait, quand on a le nez dans le guidon, on n'arrive pas à analyser. Et justement, l'occasion de sortir et de voir depuis ici les événements de là-bas, quoi. Et de pouvoir le partager cette analyse avec des camarades. C'est vrai que ça aide à voir avec plus de clarté les événements. Voilà, les choses, les bonnes choses et également les erreurs qu'on a pu commettre. Pour comprendre
Ce qui est en train d'arriver en Argentine depuis deux ans, donc Milei gagne les élections. C'est un personnage, un grotesque personnage. Vous avez pu avoir l'occasion de le voir à la télé. Qui nous a surpris. Sa victoire nous a tous et toutes surpris.
Et
il faut chercher la réponse de ce qui s'est passé en Argentine depuis la crise du dernier processus néolibéral qui a débouché dans la crise de 2001 et qui a généré, qui a produit qu'un gouvernement soit parti en hélicoptère. Il a fui la maison, enfin l'Élysée argentin, la Casa Rosada, en hélicoptère. Et dans un processus qui a duré deux mois, même moins, dix jours, cinq présidents, avec des crises systémiques, quoi, continuelles. La crise de 2001, c'est vraiment la crise du modèle néolibéral. Qui a traversé tout le continent sud-américain. Ça a pris donc ce qui a été ce qu'on appelle le Caracaso au Venezuela.
La crise del 2001,
la crise de 2001, ce qui
no solamente la caída del gobierno, sino muchos
ce n'est pas seulement la chute d'un gouvernement, mais plusieurs morts dans les rues. Des mobilisations constantes avec des face à face avec la police. Et qui va déboucher dans une crise politique. Dans laquelle la réelle politique. Est démantelée et perd le masque face à la société. Cette crise récurrente, avant que la crise politique se soit résolue, le gouvernement qui était celui de Duhalde, qui voulait être élu aux prochaines élections, il commence à prendre des mesures. Déjà pour faire face et démanteler les mesures néolibérales. La crise récurrente le mange cru et Duhalde ne peut pas se présenter en tant que candidat.
Il y
a des élections du coup à échelle nationale, des élections présidentielles. Où il y a un taux de participation très très faible. Il y a une dispersion très importante des voix. Donc la première minorité. C'est celui qui était vraiment le candidat du néolibéralisme, quoi, de la politique, qui était Carlos Menem. Mais quand même avec un 22% des voix. Et la deuxième minorité, c'est celle de celui qui sera après, en fait, il sera finalement élu président. Très critique au modèle néolibéral, mais qui n'a que 20% des voix. On part à un second tour avec deux candidats qui ont vraiment très peu de voix.
Menem no se presenta.
Menem finalement ne se présente pas. Et le nouveau gouvernement va prendre en charge avec un nombre de voix de 20%. Donc l'autorité politique de ce nouveau gouvernement était tout de même assez faible. Mais il va avoir une très bonne lecture du processus qu'on est en train de vivre.
Et
très rapidement,
muy audazmente,
de façon très audacieuse,
una serie de medidas,
il y a plusieurs mesures qui sont prises, des mesures économiques
que hacen cambiar la dinámica,
qui vont faire changer la dynamique du processus néolibéral en crise.
Et
il va y avoir un développement, une croissance qui va s'enclencher. Une croissance économique importante. Avec une politique de redistribution. Par exemple, la première mesure
qui
prend du coup Néstor Kirchner quand il est président, il y a une province que, dont les enseignants et les enseignantes étaient en grève depuis 20 jours. Il prend l'avion. Il débarque devant le piquet de grève. Il accepte toutes les revendications des enseignants et enseignantes. Les enseignants et enseignantes gagnent le conflit. Et il revient à la capitale. Et il commence, du coup, petit à petit, on porte un regard sur ce nouveau gouvernement, un regard positif. À partir de ce moment-là, il met en place des mesures économiques et politiques qui avaient été dans la décennie néolibérale.
Habían sido políticas que habían complicarlo, que el neoliberalismo había aplacado, por ejemplo, la impunidad.
Par exemple, il va annuler des lois qui avaient été mises en place dans la décennie des années 90, par exemple l'impunité des militaires.
Se había prohibido las paritarias, no había negociaciones.
Pendant les années 90, il y avait eu l'interdiction des paritaires, les tables de négociation de salaire. Les salaires avaient été congelés, donc il rouvre les négociations salariales. Et dans tous les cas, et du coup avec des mesures pour obliger la classe dominante, pour que cette classe dominante soit obligée à faire des concessions au secteur populaire.
La politique de juicio y castigo a los responsables del
donc la politique de jugement et de châtiment aux responsables de la dictature et du génocide,
lo toma como política de Estado,
ça devient une politique de l'État.
Deroga todas las leyes,
il va abroger toutes les lois d'impunité.
Lleva a los militares a juicios civiles.
Il y a des procès et avec la justice civile.
Los condenan,
condamnation de ces militaires, et ils sont en prison, ils vont être arrêtés et mis en prison au niveau que les responsables de la junte militaire, Videla, Massera, tous sont morts en prison. Certains à l'hôpital parce que... Mais Videla, par exemple, il est mort dans sa cellule. 1200
presos
génocidaires en prison.
También se condenan a civiles
et également, il y a eu la condamnation de civils qui ont été des responsables ou des collaborateurs avec la dictature.
Se lleva a juicio empresas.
Et d'ailleurs, il y a des procès contre des entreprises
qui
avaient collaboré avec la dictature et plusieurs multinationales.
Ford, Volkswagen. La politique des droits humains.
Et la politique du coup des droits humains
passe à ser una política institucionalizada por
elle est
Estado,
institutionnalisée par l'État.
Que recupera todos los centros clandestinos.
Il y aura la récupération de tous les centres de détention clandestins. On est en train de parler de presque 700 centres dans toute l'Argentine, centres clandestins de torture. De...
Como centros de memoria.
Et ils deviennent des centres de mémoire. Des centres culturels où il y aura dans ces lieux des activités culturelles, il y a des visites guidées. Le 24 mars, qui est la date du coup d'État de 1976, devient jour férié. Et ce jour-là, il y a de grosses mobilisations, c'est les 24 mars. Les gens vont participe à la manifestation, mobilisation pour la mémoire.
y los niños
et les enfants, adolescents,
diferentes niveles escolares,
dans les différents établissements scolaires.
Meses antes ya se empieza.
Il y a tout un travail dans le cursus scolaire de mémoire justement et par rapport de ce qui s'est passé pendant la dictature.
Esto le da una fortaleza.
Ça va lui donner à ce gouvernement vraiment une base très forte.
Porque empieza a resolver.
Il va commencer à résoudre un problème structurel, institutionnel et politique de la société argentine qui a été le génocide.
Obviamente, se hace resarcimiento a los expresos políticos.
Évidemment, il y a des indemnisations pour les anciens prisonniers, prisonnières politiques, pour les exilés également.
Paralelamente a esta política,
parallèlement à cette politique,
la política económica empieza a tratar de
les mesures économiques essayent de démanteler
el Estado y las estructuras neoliberales,
toutes les mesures néolibérales.
Para eso empieza a desarrollar un Estado,
et du coup, un État qui est renforcé et avec des mécanismes de contrôle.
Empieza a tener políticas distributivas.
Il va y avoir une politique de redistribution, par exemple à travers les paritaires,
en las paritarias,
dans l'étape de négociation de salaire.
Siempre a favor de los
L'État va toujours être en faveur des syndicats,
presionando las empresas,
et en justement mettant la pression sur les entreprises, sur le patronat.
Se derogan leyes que habían.
Il y aura l'abrogation de lois qui avaient été mises en place pendant le néolibéral, la période néolibérale très forte, antisyndicale, de flexibilisation, de précarisation.
Y empieza a generar.
Et enfin, ça va commencer à générer.
Producto de la situación favorable.
Et également fruit de la situation, de la conjoncture internationale favorable, économique. C'est l'époque des commodities où les matières premières ont des prix très élevés.
Para apropiarse
pour
de las superganancias,
s'approprier du super profit, notamment du patronat agricole. Avec les exportations, pour justement l'État va prendre une partie de ses gains et va du coup donc ces gains vont permettre de mettre en place des politiques d'État de redistribution. Par exemple,
se crea la asignación universal por hijo.
Donc il va y avoir la création des allocations familiales pour enfants.
Toda persona que no tiene trabajo,
toute personne qui n'a pas de travail, qui est privée,
salario,
va avoir un salaire.
Si
cette personne a des enfants, c'est un petit salaire, c'est des allocations pas très importantes, mais tout de même. En retour de ça,
la
personne doit démontrer
que, su hijo estudia,
que son enfant va à l'école,
qu'il
est à jour dans les vaccins,
para poder cobrar esa ayuda,
pour justement avoir accès à cette allocation familiale. Et voilà, c'est une entrée d'argent pour les personnes les plus défavorisées.
Empieza a generar planes sociales.
Il y a des plans sociaux
que tuvieron diferentes nombres,
qui ont eu des différents noms.
Pero centralmente servían para
mais centralement ont servi
varias personas se junten,
et que plusieurs personnes puissent se rassembler
pequeños emprendimientos,
et puissent mettre en place des petites entreprises, des coopératives,
se la financiaba,
où il y avait des aides et des financements publics
para generar la subsistencia,
pour générer que les personnes puissent vivre de cette activité. Et justement, toutes ces aides au secteur de la population qui n'avait pas accès au marché du travail traditionnel. Donc le marché du travail formel va grossir. Il y aura une création de 5 millions de postes de travail.
En condiciones no de las mejores, sino bastante precarias.
Dans des conditions assez précaires, mais.
Pero antes no había nada.
Mais avant, il n'y avait rien du tout.
Mmh. que Rafael Videla, genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón. Carcelero de tantos sueños indomables, naciste mal parido, que te vomite Dios. Cara dura, amante de la dictadura, fuiste amigo de los coras y la alta cornia empresarial. Asesino de estudiantes y de obreros, vos fuiste el carnicero de la sociedad rural. Videla, Videla, vos siempre fuiste un cobarde. Rata inmunda, miserable, lacayo del Opus Dei, Videla culpable. La historia te condenó, moriste en cana sentado en un inodoro. La parca eligió tu trono, llegó y apretó el botón. Che Videla, sorete desechable, para vos y todos los culpables, ni olvido ni perdón.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes et nous poursuivons avec Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina.
Bueno, esto tiene un limite.
Il va y avoir une limite de tout ça, de cette politique. Le deuxième gouvernement de Cristina, de Kirchner.
Cuando se inicia la crisis.
Quand il va y avoir le début de la crise mondiale en 2008.
Eso en América Latina,
ça en Amérique latine,
los gobiernos progresistas,
les gouvernements progressistes de centre-gauche de cambio, ou dit de changement,
de la qualification,
indépendamment de la qualification,
pero que eran gobiernos antineoliberales,
mais qui étaient quand même des gouvernements antilibéraux, certains plus tièdes, d'autres moins tièdes.
Donc
là, l'Argentine, il y a un moment où il va falloir prendre une décision. Est-ce que la crise, suite à la crise, on va mettre en place des politiques d'austérité ou pas? Ou au contraire, on va approfondir des mesures de redistribution.
L'Argentine non si ajustó.
L'Argentine n'a pas pris des mesures austéritaires à ce moment-là.
Utilizaron políticas heterodoxas.
Donc ils vont mettre en place des politiques hétérodoxes
para no ajustar,
pour ne pas mettre des mesures mettre en place des mesures austéritaires.
Por ejemplo, se prohibieron los despidos.
Il y a eu une loi d'interdire les licenciements.
Si una patronal quería despedir,
si la direction d'une entreprise, une entreprise voulait licencier,
tenía que declararse en crisis,
il fallait qu'elle se déclare en faillite.
Si se constataba la crisis,
et du coup, si la faillite était prouvée,
l'État
avait un plan
de pagar parte del salario,
et il prenait en charge une partie du salaire pour que les travailleurs, travailleuses ne soient pas licenciés.
Ou en Brésil, si ou à Rouge.
En revanche, au Brésil, à ce moment-là, il y a eu justement une politique d'austérité.
Pero lo que impidió es, o no se quiso,
mais ce qui n'a pas été fait ou n'a pas voulu être fait,
es profundizar el proceso.
C'est de justement là, profiter de ce moment-là pour approfondir le processus de redistribution de la richesse. Qui signifiait vraiment se mettre à dos les grands groupes financiers, voilà, être en confrontation avec le capital. Les élections au bout du deuxième mandat de Cristina, donc elle ne pouvait pas être une troisième fois candidate. Le candidat du péronisme, c'était un candidat de droite. Donc Macri, de la droite classique, disons, du parti pro, il va remporter les élections pour un 1% de différence.
Bueno, a partir de ahí se inicia,
à partir de là, va commencer
un proceso de ajuste,
un processus justement d'austérité,
de déstructuration,
de démantèlement des mesures de justement de cet État providence qui avait pu se mettre en place jusqu'à, jusqu'alors.
Lentamente.
Lentement, ce démantèlement.
Fondamentalement, Macri quiere ganar las elecciones dos años después.
Donc Macri, comme il souhaite, en Argentine, il y a des élections intermédiaires. Donc le mandat, c'est 4 ans, mais au bout de 2 ans, il y a des élections parlementaires, en fait, ce qu'ils appellent les élections intermédiaires.
Cuando gana las elecciones esas,
quand il gagne les élections de mi-mandat,
immédiatement,
il va y avoir la mise en place de plusieurs lois
para profundizar el ajuste.
Pour approfondir l'austérité, justement, les mesures austéritaires. Et là, il y a une confrontation très très forte. Le mouvement social va réagir de façon très puissante. Et justement, ce mouvement social qui est un acteur de gros, d'une grande puissance en Argentine quand même. Donc le mouvement syndical, le mouvement social dans son ensemble, les organisations de droits humains et un phénomène nouveau qui apparaît à ce moment-là, qui est le mouvement féministe, qui là, il va vraiment rentrer avec une très grande puissance, vraiment de façon monumentale sur la scène politique.
Gana las elecciones, pero entra en una crisis muy profunda.
Donc Macri gagne les élections, mais il y aura une crise très très profonde. Beaucoup ont pensé, que le gouvernement allait se casser la figure avant les. Vraiment, on a senti qu'il était au bord du gouffre. Mais comme on arrivait déjà à l'échéance électorale, du coup, tout ce mouvement va se traduire par donner les voix au péronisme. Au milieu de gros conflits et de grosses mobilisations. Là, en Argentine, il y a deux élections présidentielles. Il y a les primaires. Donc, dans les primaires, le péronisme remporte 10% de plus que les autres. Et entre chacune des deux échéances, le peso arrive. Vraiment, il y a une dévaluation de la monnaie très très importante.
Macri decía eso porque los mercados creen que vuelve el peronismo.
Voilà, et du coup Macri ce qu'il disait, il disait: ah, vous voyez, le peso s'est dévalué parce que les marchés pensent que le péronisme va gagner et que du coup ça serait une catastrophe économique. Et justement, ce discours-là, c'était justement pour faire peur et que du coup éviter que les gens votent le péronisme. Mais voilà, il y a le candidat du péronisme qui va remporter au premier tour. D'un processus de redistribution, on a vécu 4 années d'austérité. Donc, le candidat du péronisme va remporter les élections.
A los pocos meses se inicia la pandemia.
Et très vite ensuite arrive la pandémie. La pandémie en Argentine a quand même été gérée de façon assez positive.
Cerró la economía.
Bah, évidemment que l'économie s'est bouclée, hein, elle a été bouclée.
El gobierno impidió, prohibió los despidos.
Le gouvernement a interdit les licenciements pendant la pandémie.
Entonces, la gente estaba en su casa,
donc les gens étaient chez eux, chez elles,
cobraba,
avaient le salaire.
No permitían despedirla.
Donc ils avaient leur boulot garanti, ils ne pouvaient pas être licenciés.
En algunas áreas,
dans certains secteurs professionnels, il pouvait y avoir une réduction de salaire.
Ahora, en el sector precario,
mais dans le secteur précaire,
ou
pour les chômeurs et chômeuses,
que vive de alguna changa,
qui vit voilà, de petits boulots à droite à gauche,
ese sector entró en un estado de desesperación.
Et ce secteur-là, évidemment, était en état de désespération.
Si ya venía de un ajuste,
il venait déjà d'une période d'austérité et la question de la pandémie a approfondi les mauvaises conditions de vie de ce secteur-là. Et les deux dernières années, il y a une grosse croissance économique en Argentine. Parce que bon, pendant la pandémie, l'économie était en arrêt. La pandémie finit, ça rebondit. L'économie rebondit.
A diferencia de los años de Cristina.
A différence de, des années de, du gouvernement Kirchner.
Ese crecimiento,
cette croissance économique
se lo apropió la clase dominante.
Va être appropriée par la classe dominante.
No generó distribución.
Elle ne va pas être redistribuée.
Al revés, proceso hyperinflacionario.
Enfin, même il y aura un processus d'inflation très très important.
Muy desgastante.
Très épuisant.
Estamos hablando de casi 200% d'inflation.
200% d'inflation à l'année.
En medio de esa crisis.
Du coup, au milieu de cette crise.
8 años de ajuste.
8 années de, d'ajustement, de, d'austérité.
Ajusté por la derecha clásica.
Donc, il y a eu la politique austéritaire du côté de la droite classique.
El peronismo no logra resolver eso.
Le péronisme ne résout pas cette question-là et les politiques d'austérité continuent.
Y ahí aparece Milei.
Et là apparaît Milei.
Jorge Rafael Videla, sanguijuela despreciable, moriste como un cobarde y sobre todo como un gran cagón. Te escondías de las madres de la plaza, a las que hoy el pueblo abraza y a vos siempre te puteó. Centinela de la patria, contratista, perseguiste a los artistas, al obrero y al peón. Y a cientos de pibes te afanaste, maldita marioneta de la banca internacional.
Milei qui réussit
avec
deux idées fortes,
phares.
Il réussit à séduire une partie
de la
société, principalement le secteur vraiment le plus paupérisé, celui qui n'a pas de travail. Celui qui vraiment, ce secteur qui souffre de toutes les conséquences des mesures économiques. Et ce secteur-là va être séduit par Milei avec ses deux idées phares. Il commence à dire que la pauvreté, c'est le produit, c'est à cause de la caste politique. La caste politique. Donc, ce sont des parasites. Cette caste-là empêche que les gens puissent pouvoir entreprendre des projets personnels qui puissent les sortir de la crise. C'est ceux qui administrent la pauvreté. Il va vraiment se syntoniser avec un sentiment dans un secteur qui est dépolitisé
et qui dit
personne ne résout mes problèmes et peut-être que vraiment c'est la caste qui est responsable de mes problèmes.
Votemos a este personaje.
Et on va voter ce personnage alors
que está por fuera, o
qui est hors système ou qu'on suppose être hors système. Le plus paupérisé, c'est vraiment les classes, la classe la plus qui est au chômage, la plus défavorisée.
Daba carton en la calle.
Ceux qui ramassaient les cartons dans la rue.
Ese sector.
Ce secteur-là.
Y la otra gran política.
L'autre idée phare, la deuxième idée phare.
Plantea una resolución a un problema.
Il va présenter comme une solution, voilà, à un problème de l'ensemble des pays en retard, entre guillemets.
Que cuando un país atrasado empieza a crecer,
c'est que quand un pays du tiers-monde ou en voie de développement commence à se développer ou veut se développer,
tiene un desfasaje en la balanza comercial.
Il va y avoir un décalage avec sa balance économique. Parce que tu as besoin d'aller acheter des dollars au marché extérieur. Toi, tu ne produis pas des dollars. Donc, ce décalage dans la balance commerciale, c'est ça, en Argentine, depuis la nuit des temps, tous les gouvernements martèlent cette phrase-là, justement. Le problème, c'est la dollarisation de l'économie.
Que
l'économie mondiale est dollarisée et que c'est la raison pour laquelle on a les limites que nous avons.
Donc il dit,
si l'économie est dollarisée,
eh
ben on va éliminer la monnaie nationale, le peso. Et on va utiliser que des dollars, tout le monde.
Y este secteur atrasado.
Et ce secteur justement dépolitisé, il va croire
que si uno cobra 100 pesos,
que si il touche 100 pesos,
va cobrar
ça va se transformer en 100 dollars.
100 pesos,
mais sauf que 100 pesos, c'est 1 dollar. Et il va croire justement ces deux idées justement phares de Milei, voilà, il va y croire. Et avec ce discours-là, il arrive à avoir 30% des voix. Donc lors de ces élections-là, le péronisme. Il y avait dans son CV 4 années précédentes de gouvernement et avec des mesures très mauvaises. Premier tour, 43% des voix, c'est le candidat du péronisme qui les obtient. Il a, il lui manque juste 3% pour gagner au premier tour. Là-bas, si tu atteins 46% au premier tour, tu gagnes les élections. Quand, du coup, second tour, ballotage. Le péronisme reste à 43%. Et Milei va additionner les voix de la droite classique plus celles qu'il avait. Et il arrive à 56% des voix.
Así empezó el tránsito.
L'histoire a commencé comme ça.
Donc, una persona que no tenía el apoyo de
Donc,
la clase dominante,
une personne qui n'avait pas le soutien de la classe dominante,
se transforma en el
il se transforme en le chef de l'État
y el que va a dirigir el capitalismo argentino.
Et qui, celui qui va diriger le capitalisme argentin à partir de ce moment-là.
Lo cual la clase dominante empieza a acomodar.
La classe dominante commence à, voilà, à s'arranger derrière Milei. Et lui, il profite dès qu'il prend le pouvoir.
Para generar un ajuste violentísimo.
Il va faire un ajustement économique très violent.
Han despedido 40.000 empleados estatales.
Donc 40 000 fonctionnaires ont été licenciés. Il fait disparaître un nombre très important de ministères. Il va réduire à 5 ministères seulement. Ministère d'éducation, d'égalité de genre, de travail. Tous, donc ces ministères-là ne passent à être de simples secrétariats. Non. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va gouverner avec des décrets.
Porque es un país presidencialista.
Parce que c'est un pays justement présidentialiste.
Un decreto que le llamábamos la ley ómnibus.
Donc le premier, c'est un décret que nous, on a appelé la loi autobus.
Porque incluía artículos que
Parce que dans cette loi-là, il y avait des articles qui changeaient même la Constitution.
Que obviamente fueron judicializados.
Et que du coup, on les a attaqués en justice. On a gagné, je dis on parce que c'est les organisations syndicales qui ont justement saisi la justice, notamment parce qu'il y avait tout un changement sur le droit du travail.
Et on
réussit à que finalement ce soit considéré anticonstitutionnel.
Pero en medio de todo ese paquete,
mais au milieu de tout ce paquet-là,
pasó la mayor parte de
mais la majorité des mesures ont été validées.
Lo cual desreguló toda la economía.
Il y a une dérégularisation de toute l'économie. Ça a provoqué, par exemple, des politiques d'État.
Multinational pueda venir a Argentina.
En fait, toutes les multinationales, n'importe laquelle, peuvent s'installer en Argentine.
Invertir sin pagar plata,
ils peuvent investir, ne pas payer d'impôts. La loi qui s'appelle Ricky. Et du coup, c'est comme ça qu'il va prendre l'ensemble des mesures qui a provoqué une crise sociale surtout pour celui et celle qui est salarié, qui a un salaire. Par exemple, aujourd'hui, les salariés de l'État, ils ont un salaire de 800 euros. Quand le panier alimentaire pour une famille de 4 personnes, il est à 1 200 euros.
los empleados privados
et le secteur privé
empieza a condicionar las paritarias
et il va mettre des règles pour les négociations salariales, les paritaires.
Si uno consigue aumentos por encima de la inflación,
si on arrive à avoir une augmentation de salaire
no lo permite,
au-dessus de l'inflation, l'État enfin, ne le permet pas, interdit ces accords.
Et fondamentalement,
et principalement cette ouverture économique va se baser centralement
en tener contenido el cambio,
et du coup dollar, il va bloquer le prix du dollar
a cambio de que el Estado vende dollars,
et du coup l'État vend des dollars sur le marché, ce qui permet que le prix soit maintenu assez bas. Ça a occasionné.
Milei hizo un blanqueo de capitales.
Donc Milei a fait un blanchiment de capitaux.
Junto fue el blanqueo más grande de la historia.
Ça a été le blanchiment le plus important de l'histoire.
20 000 millones de dólares.
20 milliards de dollars.
Y en 6 meses,
et en 6 mois,
se fugaron.
Ils ont disparu.
Porque esa intervención
parce que justement l'intervention de l'État sur le marché avec les spéculations financières, donc l'État finit par vendre ces 20 milliards aux spéculateurs financiers. La même chose s'est reproduite avec le nouveau emprunt du FMI. Donc Macri, lors de la crise pendant son gouvernement, avait, pour gagner justement les élections, il a eu obtenu un prêt de 50 milliards. De la même façon, le même mécanisme s'était produit avec les 50 milliards. Mais le FMI.
Dio un préstamo que era ilegal para el propio FMI.
En fait, le montant mirabolant de cet emprunt est même illégal parce que c'est 80% du budget du FMI, il avait prêté à l'Argentine. Avec cette dette-là, Milei a quand même demandé plus. Et on lui a donné quand même 20 milliards de plus. Et si on voit la une du journal de droite argentine, qui est le Clarín d'hier, la une du journal Clarín. Donc la une, c'est le gouvernement désespéré cherche des dollars. Parce que on sait que voilà, ces 20 milliards également, ils ont disparu. Et en fait, c'était le prêt de 20 milliards pour arriver à octobre, là, qui aura des élections de mi-mandat. Ça, c'est le macroéconomique. Dans la réalité objective
que vive en la sociedad,
qu'on vit tous les jours, tout le monde de la société. Les mesures d'austérité continuent
et
apparaît pratiquement impossible de défaire cette politique-là. L'autre élément nouveau que Milei introduit, c'est que toute mobilisation sociale, il va y avoir une répression envers toute mobilisation sociale. Et de façon absolument exagérée, disproportionnée.
Una mobilización de 500, 1000 personas.
Une mobilisation, un rassemblement de 500 personnes, 1000 personnes.
Pone 3000
policiers. Il y a 3000 policiers.
Y si vos te pisas la calle,
et si toi, tu sors du trottoir,
te pegan.
Voilà, tu reçois un coup, quoi. Vraiment la répression, les gaz.
Excepto las grandes movilizaciones.
Alors, il n'y a pas de répression lorsqu'on réussit à qu'il y ait une grosse mobilisation. Voilà, à peu près 100 000 personnes dans la rue. Bon, là, il n'y a pas de répression. Ces mobilisations-là, il y en a eu quelques-unes. Quelques-unes d'entre elles ont obligé Milei à négocier.
Par exemple, la de los. En defensa de la universidad.
Par exemple, la grosse mobilisation qu'il y a eu en défense de l'université.
Una mobilización muy grande.
Ça a été une mobilisation très très puissante dans tout le pays.
Y el gobierno negoció.
Et le gouvernement a fini par négocier le montant du budget pour l'université.
no se terminó ganando, pero fue una especie de empate.
Voilà, il n'y a pas eu exactement les revendications, le montant exigé par la mobilisation, mais au moins ils ont gagné un peu et il y a eu un match nul.
La otra gran mobilización.
Et l'autre grosse mobilisation.
Fue la de después de las declaraciones.
Donc suite aux déclarations de Milei à Davos. Donc des déclarations nauséabondes, homophobes, racistes, sexistes. Et ça, ça a provoqué une mobilisation très importante et vraiment avec l'intitulé antifasciste. Et du coup, ils essayaient à la télé d'expliquer, mais non, c'était pas ça qu'il avait voulu dire. Et voilà, ils ont essayé de trouver. Mais ils ont senti le coup était fort.
La otra que siempre es muy potente,
celle qui est toujours très puissante et que on continue à maintenir cette puissance,
es la de los derechos humanos.
Les droits humains. Voilà, les mobilisations portées par le mouvement des droits humains est très puissante.
Que obviamente el gobierno no está de acuerdo.
Évidemment que le gouvernement de Milei n'est pas d'accord avec la lecture des droits humains. La vice-présidente a été une défenseuse des génocides, des coupables du génocide.
Con eso tampoco,
ça non. Lograron avanzar. Mais ça, ils n'ont pas réussi à avancer sur ce terrain-là.
Intentan golpearlo a través de...
Ils essayent de taper sur justement tout le mouvement des droits humains à travers la réduction de budget.
Degradan la Secretaría de Derechos Humanos. Donc, a una dirección.
Voilà, le secrétariat des droits humains est rétrogradé en juste une direction des droits humains.
Empiezan a vaciar centros de memoria.
Ils vident les centres de mémoire, justement, ceux qui avaient été des centres de torture, etc. Les camps de concentration qui ont été récupérés en centres et devenus des centres de mémoire. Mais pas de face, en fait, par le biais du financement. Ils ont fait la même chose avec la compagnie aérienne nationale, Aerolíneas Argentinas. Elle avait été renationalisée pendant le kirchnerisme, comme également le chemin de fer. Donc, ce qu'il avait déclaré dès le début, je vais tout privatiser. La Banque Nationale. En fait, il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas avancé de front pour une privatisation. Mais en fait, l'ouverture de l'économie commence à détruire de façon biaisée. Par exemple, il n'y a pas de privatisation de la compagnie aérienne, mais le ciel argentin est ouvert aux autres compagnies aériennes. Donc, voilà, il y a la mise en concurrence et du coup des compagnies low cost qui s'installent. Donc, en fait, plus que privatiser, surtout son objectif, c'est de détruire l'économie. Parce que effectivement, dans le secteur aérien, il y a une force. Enfin, l'organisation syndicale des travailleurs et travailleuses aériens est très fort, et du coup, et il y avait eu de grosses mobilisations. Ils ont fait face à cette volonté de privatiser. Et du coup, il a lâché le morceau. Il privatise pas directement, mais il ouvre le ciel et du coup ouvre la possibilité de la mise en concurrence avec les autres entreprises. La Banque Nationale non plus, il n'a pas réussi à la privatiser. Et la confrontation avec le mouvement syndical, il essaye de détruire la structure syndicale argentine qui est au moins depuis 70 ans. Et que historiquement, elle a toujours été très puissante. Elle a une histoire, de rapport de force en sa faveur très très fort. Et que jusqu'à maintenant, aucun gouvernement n'avait pu justement gouverner sans négocier avec le mouvement syndical argentin. Milei est en train d'y parvenir. Il y a eu trois grèves générales.
Las huelgas generales a diferencia de lo que es históricamente la...
Les grèves générales et à, ces trois dernières, à différence de ce qu'elles ont pu être dans le passé...
Cuesta, o fueron débiles.
Voilà, en fait, on a eu du mal à que les gens fassent grève. Ce sont des taux de grévistes, elles sont faibles.
Lo cual,
c'est une situation nouvelle pour nous.
Que la classe dominante,
que la classe dominante
lo ve con mucha simpatía.
Ils voient tout ça avec beaucoup de sympathie.
La classe dominante argentina,
la classe dominante argentine,
de la cual Milei no fue su candidato,
et qui en plus... Il faut savoir que Milei n'a pas été son candidat.
Hoy, lo apoya Milei.
Aujourd'hui, il est soutenu par cette classe dominante, Milei.
Inclusive,
même,
yendo a pérdida.
Même si le patronat argentin, les exportateurs, etc., sont en train de perdre de l'argent, mais même comme ça, malgré tout ça, malgré que l'économie n'est pas florissante, ils le soutiennent.
L'apertura de l'economía.
L'ouverture de l'économie pour l'industrie nationale, c'est une catastrophe.
Para el sector del agro,
pour le secteur de l'agro exportateur,
de la moneda,
qu'il n'y ait pas de dévaluation de la monnaie.
Que es lo que piden cada vez que
et c'est ce qu'ils demandent justement chaque fois qu'il faut qu'ils vendent la récolte.
Es ganar menos que lo que ganaba el año pasado.
C'est gagner moins que ce qu'ils pouvaient gagner l'année d'avant.
Pero a pesar de eso,
mais malgré tout ça,
lo apoyan a Milei,
ils soutiennent Milei
porque tienen la expectativa,
parce qu'ils ont l'espoir
de que, por primera vez en la historia,
que pour la première fois dans l'histoire,
logren generar una derrota,
il va y avoir vraiment un échec,
al movimiento sindical,
que vraiment mettre en échec le mouvement syndical, le mouvement social. Les organisations sociales, les organisations des droits humains.
Et
c'est vraiment le désir, depuis la nuit des temps, de cette classe dominante qui, au moins, rêve de ça, de la destruction du mouvement ouvrier argentin depuis au moins 70 ans. Bon, nous, ce qu'on essaye, c'est que, justement, le gouvernement n'y arrive pas. Et voilà, et on est dans ce moment-là.
Videla, Videla, vos siempre fuiste un gusano, ni derecho ni humano, genocida y dictador. Videla, Videla, tu aura nunca tendrá paz y en tu tumba 30,000 almas sobrevuelan. Para vos y los Macera no habrá ni reencarnación. Che Videla, la reconcha de tu madre, que tu karma se convierta en balde y que te vomite Dios.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes et nous poursuivons avec Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores et Trabajadoras de Argentina.
Vous êtes syndicaliste donc dans les transports. Comment s'organise la grève dans le secteur des transports s'il y a eu ?
Donc quand on fait une grève, tout s'arrête. Il n'y a pas de service minimum, il n'y a rien. Les gouvernements successifs ont voulu toujours nous exiger un service minimum. Mais le gouvernement de Milei, avec deux décrets, avait interdit la grève, ou réduit justement. Il n'y avait que 30% des travailleurs qui pouvaient s'arrêter. Ces deux décrets ont été considérés inconstitutionnels. Nous, dans le transport, beaucoup de fois, ils ont voulu nous exiger un service minimum. On n'a jamais accepté.
Donc,
tous ces syndicats du secteur du transport sont dans la CAT, qui est la centrale argentine du transport. Mais le syndicat des autobus... Dans la dernière période, il y a eu beaucoup de crises internes au sein du syndicat, mais ses dirigeants
a
été allié et à Milei et avant à Macri.
Lo cual, en las huelgas generales, en una sola paró.
Donc, les bus n'ont suivi la grève générale qu'une fois. Mais ce syndicat-là, maintenant, est dans une crise profonde. Et du coup, il y a eu un appel à la grève du secteur des bus. Parce que le système des autobus est absolument ingérable en Argentine. Les bus sont privés, ce sont des entreprises privées. Et justement, en fait, c'est l'État qui finance les entreprises privées des bus. Jusqu'à maintenant. Maintenant, ça c'est, il y a plus d'argent, ça s'est arrêté. Et justement, l'État est en train de réduire les budgets, donc il y a eu justement une grève du secteur des autobus. Même si le mouvement syndical regarde vraiment très très mal ce syndicat des travailleurs des autobus. Généralement, ceux qui font la grève, c'est tout le secteur ferroviaire, aérien, tout ce qui a à voir avec la pêche et également du transport fluvial. Mais après, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que toi, Beto, tu racontes les grèves du syndicat et comment peut-être le syndicat du métro est né. Comment on assure le sindicato del metro. Et surtout qu'ils ont arraché, grâce à une grève, de réduire leur temps de travail. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Argentine, il y a un syndicat de branche. C'est le syndicat unique qui peut négocier avec le patronat ou avec l'État. On peut créer des syndicats, mais tu ne vas pas pouvoir négocier les accords collectifs. Les syndicats qui naissent, qui apparaissent, et très rapidement, voilà, ils sont détruits par le gros syndicat. Parce que comme tu ne peux pas négocier, le patronat t'attaque et tu disparais. C'est vraiment très difficile de créer un syndicat en Argentine. C'est plus facile de devenir milliardaire. Notre cas, c'est un cas très étrange. Nous, on faisait partie du syndicat des autobus. On faisait partie du coup, donc secteur métro. La structure syndicale argentine, en plus du syndicat, des représentants du syndicat, des délégués dans chaque lieu de travail, chaque secteur. Et tous les deux ans, il y a des élections pour ces délégués. Et du coup, les délégués ont protection syndicale, un statut. Donc nous, dans ce syndicat national du transport, on était les représentants des travailleurs du métro de Buenos Aires. Et on a commencé à s'opposer avec la direction du syndicat. Nous, on voulait se battre pour certaines choses que la direction ne voulait pas. Comme c'était l'ensemble des délégués, tous les délégués, on s'est structuré comme un courant syndical et on organisait nos grèves, nos revendications propres. On allait au syndicat et on réclamait les choses, mais chaque fois qu'on y allait, on finissait à coups de poing. Mais littéralement. Donc ça nous a amené vraiment à être en conflit avec le syndicat. Le syndicat signait un accord avec l'entreprise. Nous, on faisait grève. Et lors du gouvernement de Kirchner, qui essayait justement de mettre en place une redistribution, etc., il y a une politique d'État de redistribution. Le gouvernement faisait que l'accord du syndicat n'était plus valable.
y obligarlos al otro sindicat, al sindicato a firmar.
Et obliger la direction du syndicat de signer l'accord que nous on voulait avec nos revendications.
Esto fue muy traumático.
Ça a été très traumatisant. Par exemple, les grèves, les piquets de grève dans le terminus du métro, des lignes. Les travailleurs d'un côté, ceux du syndicat de l'autre côté, et plein de policiers, de flics au milieu. Pour qu'on ne se tue pas. Bon, malgré tout ça, il y a eu des blessés, il y a eu dans les bagarres. Donc la confrontation au sein du syndicat en Argentine peut être très forte. Pendant le gouvernement des Kirchner, et que donc avec cette politique qui favorisait des meilleures conditions de vie, de travail, nous on est sortis pour se battre. D'abord, pour récupérer une réduction du temps de travail qu'on avait avant la période néolibérale de Menem. À l'époque, on travaillait 36 heures. Et après Menem, enfin avec Menem, on est passé de 36 à 48 heures. Et du coup, on a commencé la lutte pour exiger qu'on revienne à 36 heures. Et on l'a gagné. Et d'ailleurs, même des secteurs qui ne travaillaient pas 36 heures, à l'époque, donc avant Menem, même comme ça, pour tout le monde, c'était 36 heures. Et tout de suite après, quand les négociations salariales se sont ouvertes, on venait vraiment dans une dynamique de lutte importante. Ça a été une table de négociation où en moyenne tous les organisations syndicales, donc une augmentation de 18%. Nous on a eu une augmentation de salaire de 52%. Et nos salaires ils ont bondi et vraiment ils ont eu une augmentation quantitative importante. Donc on a fini par obtenir et la réduction du temps de travail et l'augmentation de 52% du salaire.
La réduction, par exemple, du salaire laboral, fut une huelga de 4 jours.
4 jours pour la réduction du temps de travail. On commençait par une grève de 2 heures.
3 heures par turno.
Ensuite, on passait 4, à 3 heures.
5,
4, 5,
6.
Et 6.
Et, là, toute la jornada,
et en fait, 6 heures de grève, enfin, toute la journée de travail.
24 heures, donc.
Et du coup, tous les jours. Et voilà. Et 2 jours de plus, etc. Et en fait, on a fait une grève temps indéterminé, mais proposée d'une façon un peu différente. Au cas où on s'épuise, qu'on puisse reculer d'un pas avec la tête haute, quoi. Et tout de suite après ça, et un processus de ce qui s'était passé dans les années 90 dans toute l'Argentine, il y a eu l'externalisation des postes de travail. En Argentine, historiquement, les contrats de travail, tous ceux qui travaillaient dans la boîte, tous ils avaient le même contrat, quoi. Enfin, c'était même employeur, même du nettoyage jusqu'à la sécurité, en passant par la production. Dans les années 90, il y a une imposition de conditions de travail. Il va y avoir la externalisation de certains secteurs. Nettoyage, sécurité, maintenance. Quand il y a externalisation, ils vont évidemment gagner moins. Et ils ont d'autres accords. Et ils vont en plus être dans un autre syndicat. Il va y avoir une division. Tout ça, ça a été la conséquence des mesures économiques des années 90. Dans le métro, c'était pareil.
Pero después de estos dos conflictos...
Et du coup, après ces deux... Alors, il dit deux conflits, moi j'ai envie de dire après ces deux victoires. Les travailleurs qui étaient externalisés, ils disaient, mais moi aussi, je veux travailler 36 heures. Moi aussi, je veux une augmentation de 52% du salaire. On a réussi à obtenir la représentation au-delà du cadre légal. Et en fait, on a organisé des grèves avec eux et elles pour justement exiger que ces travailleurs-là et ces travailleuses-là reviennent à l'accord collectif du métro. Et on a réussi. Si je devais faire un bilan, c'est pas qu'on était des super champions et championnes, c'est que la seule vertu, c'est qu'on a compris en fait le moment politique. Et là, on a tout misé à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a réussi à avancer les salaires, les conditions de travail. Alors, on ne discute pas le salaire à échelle nationale avec Milei. Ça fait 10 ans qu'on le discute avec le gouvernement de la ville de Buenos Aires. C'est le macrisme hein, qui a les manettes de la ville de Buenos Aires, mais bon, c'est quand même moins mauvais que Milei, quoi. Tout ce processus d'hyperinflation, on a eu tous les mois des accords d'augmentation de salaire, tous les mois de tables de négociation. Donc un mois, donc à un coup, on avait 10% de plus. On suivait l'inflation. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de chute de salaire depuis la fin du gouvernement de Cristina Kirchner. Mais on a quand même perdu du pouvoir d'achat. Parce que comment on mesure l'inflation en Argentine, c'est la même grille de calcul qu'il y a 20 ans quand les choses elles ont changé. Ça ne prend pas en compte le loyer, tout ce qui est téléphone portable, l'internet, tout ça. Enfin,
de bronca. Sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes et nous poursuivons avec Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina.
Donc oui, en Amérique latine, on vit ça. C'est un nouveau mécanisme qui utilise la classe dominante pour diaboliser les dirigeants populaires. Les moyens de communication mentent. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Cristina Kirchner, justement, puisque hier,
il
n'y a pas une seule preuve dans le procès
qui montre
qu'elle a agi de façon corrompue. Et malgré qu'il n'y ait pas de preuves, elle a été condamnée à 5 ans de prison et inéligibilité à vie. Le mécanisme que la classe dominante et les États-Unis a utilisé dans les années 60 et 70, ça a été les coups d'État. Avec l'armée, ils ont utilisé l'armée pour provoquer des coups d'État. Aujourd'hui, ils utilisent le pouvoir judiciaire et l'appareil médiatique. C'est pour ça que Lula a été en prison. Correa ne peut plus revenir en Équateur parce que sinon il est arrêté. On lui crée des accusations. Et hier, Cristina a été condamnée. L'Argentine est un pays dynamique. La situation d'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'éléments parce que la condamnation de Cristina qui a eu lieu hier a provoqué un processus de mobilisation. Il y a tous les accès à Buenos Aires qui sont bloqués. Tout le mouvement syndical, les trois organisations syndicales dénoncent la situation et tous les partis politiques de gauche disent que c'est une agression à la démocratie. Donc là, il y a une grosse mobilisation. Dans une heure, justement, devant la maison de Cristina, du coup, il y a un appel à rassemblement devant la maison. Et on ne sait pas comment ça finit. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, personne n'est dupe non plus du personnage de Cristina, quoi. Enfin, mais il y a quand même un soutien parce que c'est contre, c'est une attaque à la démocratie. Voilà comment c'est lu, quoi. Donc hier, Myriam, qui est une députée du PTS, voilà. Merci. Ouais, c'est Révolution Permanente. Donc elle-même, qui en fait, ça a toujours été contre Cristina, etc. Mais elle est allée soutenir personnellement chez la fille de Cristina, la soutenir, etc. La réalité argentine est vraiment change énormément. Donc avec l'ouverture économique que Milei a mis en place, il dit aux capitaux, mais venez, mais les capitaux parasitaires et même les capitaux des narcotrafiquants, hein, mais venez en Argentine faire du business. Mais en fait, ils ne viennent pas. Avec Macri, ils sont venus, mais avec Milei, ils ne viennent pas. Parce que justement, en fait, ils n'ont pas confiance qu'ils soient capables d'avoir une stabilité en Argentine. En fait, aujourd'hui, financièrement, l'Argentine est aussi intéressante qu'un paradis fiscal. C'est comme un paradis fiscal. Là, il y a une loi qui vient de sortir. Tu peux déposer jusqu'à 100 000 dollars en Argentine sans aucune explication. Pourquoi ils ne viennent pas ? Parce que les îles, par exemple, dans les îles Caïmans, il y a une stabilité politique, économique, il ne se passe rien, quoi. Et en Argentine, on ne peut pas prévoir. Et les grandes entreprises commencent à partir, à quitter l'Argentine. Si, par exemple, les industries des pneus, il y a les mêmes entreprises, les mêmes usines au Brésil. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà, je vais importer du Brésil, main d'œuvre moins chère. Et du coup, les usines en Argentine commencent à fermer.
Alors, je me posais la question sur les 30% des voix de la population précarisée ou très pauvre qui a voté pour Milei, si aujourd'hui il y a un changement d'avis ou pas, et le lien avec les églises évangéliques, parce qu'en Amérique latine, il y a un poids très fort de ces églises et que c'est un truc très politisé dans les quartiers populaires pour voter à droite, extrême droite, quoi. Donc, je me disais quel est le lien entre tout ça et si ça change ou ça reste pareil.
Aujourd'hui, Milei, il continue pratiquement à avoir le même soutien. Et il a absorbé en plus, il a récupéré toutes les voix, tout le soutien de la droite classique. D'ailleurs, il est en train, on peut voir qu'il détruit le parti de Macri, le PRO. Les dirigeants du PRO passent du côté de Milei. Sa base sociale, ses votants,
Et la mayoría lo sigue sosteniendo.
Y continue à le soutenir.
Las encuestas le da un 44.
Les sondages lui donnent entre 40 et 44% de soutien. Plus que le 30, puisqu'il a capitalisé les voix de la droite classique. Pourquoi ? Si toi, tu n'as pas de salaire. Si tu vis des aides sociales. En plus,
en plus
des aides de l'État, tu pouvais compter sur des organisations comme par exemple les églises pour voilà, tu avais des sacs d'aliments. Qu'est-ce qu'il a fait Milei? Sacs d'aliments, il y en a plus. Parce que ça doit être distribué par quelqu'un, et ça, il faut une organisation qui distribue. Pour justement détruire les organisations, il n'y a plus de distribution d'aliments. Il n'y a pas non plus de distribution d'aliments pour aider les soupes populaires. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a deux aides sociales pour ces secteurs-là, dont les allocations familiales et la carte alimentaire. Ce que tu touches avec ces deux aides, c'est au-dessus de l'inflation. C'est rien, mais... C'est 100 euros. Mais que tu n'as pas perdu puisque ça suivait au-dessus de l'inflation. Donc ce que l'État donne directement aux plus pauvres, il a maintenu ces aides-là au-dessus de l'inflation. Et il a enlevé tout ce qui était des aides par d'autres voies. Ce qu'on appelle le salaire différé, justement. Le transport, ou l'électricité, ou le gaz. Les prix, les tarifs étaient vraiment minuscules en Argentine. Un ticket de métro, c'était 0,05 dollars. Aujourd'hui, c'est 1 dollar. C'est comme ailleurs dans le monde, quoi. Enfin, c'est vraiment la lumière, l'électricité, le gaz que tu payais 20 euros tous les deux mois. Maintenant, ça a grimpé de 400%. Ce secteur-là, il ne paye pas de loyer. Parce qu'ils ne payent pas. En fait, ils font des branchements illégaux. Il n'est pas touché par ces augmentations-là comme est touchée la majorité de la population. Et ça, également, on était avec une inflation de 200%. Celui qui n'a rien... Il est impossible de vivre avec une inflation de 200%. Il n'y a pas de façon de faire. C'est intolérable, la vie devient intolérable. Aujourd'hui, on a une inflation qui continue à être élevée, hein, 48%, mais c'est pas la même chose que 200%, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent justement cette couche de populaire paupérisée? Il y a eu des élections dans la capitale, à Buenos Aires. Il y a moins d'un mois où il y a eu des élections.
Justement.
Et moi, j'ai croisé des gens qui avaient voté Milei. Qui vit dans un quartier où les logements, justement, ont été faits sous le gouvernement de Cristina. Et ils avaient acquisition de la maison pour un montant dérisoire. Voilà, moi je suis allée voter, dans la ville de Buenos Aires, pour le candidat de Milei. Mais on est très très mal. Ouais.
Estamos mal.
Ouais, on va pas bien. Ouais, on va mal.
Pero bajó la inflación.
Mais l'inflation, elle a baissé.
A los otros los conozco.
Aux autres, les autres là, je les connais déjà.
Ahí se mezcla.
Et du coup, là, ça, on mélange l'analyse qu'on avait faite au début, justement, les années d'austérité plus le Laufer. Il faut lui donner du temps. C'est une phrase mondialement connue. Il faut leur laisser du temps. Donc, la capitale. Donc la ville de Buenos Aires, qui a gagné du coup, ça faisait 18 ans que la droite gouvernait la ville de Buenos Aires.
De Macri.
La droite de Macri.
Milei presentó otra lista.
Milei présente une autre liste, un autre candidat.
Y le ganó.
Et Milei a gagné. Enfin, le candidat de Milei a gagné.
Segundo sale el peronismo.
En deuxième place, le peronisme. Et le troisième, à la troisième place, c'est le macrisme. Donc Milei va absorber tout ce qui arrive du pro, historiquement. Et il n'y a pas de militants. Donc le candidat, c'était son porte-parole. Et il a gagné les élections de la ville. Donc il maintient quand même. Il n'a pas gagné avec plus de 50. Il était juste à 3% de plus que le candidat péroniste. Mais et qui, par ailleurs, historiquement, le péronisme n'a jamais emporté les élections de la ville de Buenos Aires. Et bon, on va voir ce qui va se passer dans l'État de Buenos Aires, dans la région de Buenos Aires, que là le péronisme a gagné les dernières trois élections. D'ailleurs, celles que à échelle nationale, le péronisme avait perdu. Là, il faut voir. Là, on pense que la droite, pour l'État de Buenos Aires, va s'unir, toute la droite. Et c'est une province, c'est un État qui est en train d'être asphyxié économiquement par l'État argentin et où vit 80% des Argentins et des Argentines vivent dans l'État de Buenos Aires. Et c'est la province où il y a le plus gros pourcentage de pauvres. C'est possible qu'on perde. Les évangéliques, heureusement, elles n'ont pas un poids politique en Argentine important. Elles se sont développées, mais par exemple au Brésil, oui, il y a même des députés. Mais tout ce qui est le travail social, historiquement en Argentine, c'est l'Église catholique qui fait. Et les organisations politiques et sociales, quoi, et très puissantes. Et l'Église catholique, dans les secteurs populaires, généralement, a toujours donné des curés, enfin tout ce qui est justement les curés ouvriers, quoi, les prêtres ouvriers, et qui a même donné de l'extrême gauche, même des maquisards, quoi, des guerrilleros. Il y a un courant au sein de l'Église, donc des curés pour les pauvres, qui est très forte dans les quartiers populaires. Ouais. Donc en Uruguay, les églises évangéliques se sont assez développées et au Brésil, c'est une vraie puissance, quoi. Et ils avancent quand même en Uruguay qu'en Argentine.
Comment s'est développé les nouveaux mouvements de MeToo en l'Argentine avec les syndicats.
Le mouvement féministe en général, qui a commencé avec Ni Una Menos, qui s'est renforcé d'une façon très puissante, a traversé tous les syndicats.
inclusive los más conservadores.
D'ailleurs, ceux qui sont les plus conservateurs.
Yo, si tuviera que decir,
moi, si je devais...
¿Cuáles son los sectores más conservadores?
Quels sont les secteurs les plus conservateurs
de la
société?
Uno es el fútbol.
L'un, c'est le football.
Y otro son los sindicatos.
C'est les syndicats, justement.
Pero atravesó todos los sindicatos.
Mais le féminisme, enfin le mouvement Ni Una Menos, a vraiment traversé tous les syndicats, toutes les organisations syndicales.
La grande majorité,
mis des dirigeants et des dirigeantes, justement,
le
pourcentage de l'équité, donc les plus conservateurs, 30% de femmes, et ceux les plus avancés, 50%. Mais à part ça, et d'ailleurs, il y a eu des changements des statuts, justement, pour que ce soit écrit. Il y a eu également l'arrivée de plusieurs femmes dans les postes de secrétaire général. Par exemple, la Fédération nationale de la presse, c'est une femme, c'est une camarade qui est la secrétaire générale. Les syndicats d'enseignants, enseignantes, ça fait plusieurs années que les dirigeantes sont femmes. Le syndicat des routes, c'est une femme également qui est la secrétaire générale depuis longtemps. Il y a des camarades femmes dans des postes de politique, de direction et de responsabilité. Beaucoup de syndicats ont des protocoles pour justement des cellules de veille contre la violence de genre. Il y a des comités, des cellules de veille, qu'on dirait, ouais, et qui doivent gérer s'il y a des soucis. Et ils ont commencé également à travailler de façon assez importante à partir de l'État lui-même, ce qu'on appelle la violence au travail. Donc voilà, ce sont les normes qui ont été votées par l'OIT. Et l'Argentine a été l'un des pays qui ne sont pas très nombreux, qui a ratifié lors du Congrès l'accord justement de l'OIT sur la violence de genre au travail. C'est un sujet qui traverse toutes les organisations syndicales et évidemment avec l'avènement de Milei. Ce qui a eu une offensive très très forte. Et Milei, bien sûr, a été extrêmement agressif avec le mouvement féministe en général, en faisant par exemple disparaître le ministère de l'égalité de genre, en enlevant tous les budgets de tous les protocoles et tous les outils justement de contrôle. Et également au sein des organisations politiques progressistes, ont commencé à être discutés si est-ce qu'on n'avait pas avancé trop vite. Est-ce que l'avancée des acquis féministes n'ont pas été trop puissants, trop forts et une avancée trop importante et que du coup c'est la réaction à cette avancée féministe qui a la conséquence et des monstres comme Milei, enfin voilà, c'est ça. Ça c'est un débat qui nous traverse également. Ouais, aux États-Unis aussi, voilà, tout ce que... Donc il y a le mouvement féministe avec tout le mouvement LGBTIQI plus quoi. Avant d'avoir la légalisation de l'IVG, le droit à l'IVG, il y a le mariage pour tous qui est déjà validé. Il y a également la loi sur l'identité. Ce n'est qu'après que le droit à l'IVG est devenu une loi.
cual fue muy potente, cómo se fue desarrollando.
Ouais, tout ça, ça vraiment a été tout un processus très puissant, très fort.
En el momento no se podía hablar.
À ce moment-là,
te habían cambiado el español a un español.
Vraiment, il y a eu une utilisation en espagnol d'éviter le genre aussi bien féminin que masculin et d'utiliser le neutre. Mais c'est une invention, en fait. Parce que tu as todos, todo, toda y todé.
Chicos, chiques.
Voilà, au lieu d'enfant. Enfin, non, enfant, c'est neutre en français. Mais en espagnol, non. Tu disais un chico, una chica. Voilà, et du coup, il y a un chique. Et à un moment, on s'est rendu compte, on était tous et toutes en train de parler comme ça. Enfin bon, bref, il y a des changements.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.